Bon, bonjour tout le monde. Donc, nous sommes maintenant presque à la fin. C'est la dernière session quand on va considérer le combat, la guerre spirituelle, le combat de Dieu. Et donc, d'abord, je vous remercie de votre patience et aussi de vos encouragements pendant la semaine. Pour moi, c'est une joie d'être ici. Et je remercie le Seigneur pour l'occasion qu'il m'a donnée d'être ici, de vous rencontrer, de parler avec beaucoup de vous, mais malheureusement pas tout le monde, il n'y a pas de temps, mais de vous rencontrer et de connaître un peu plus du travail du Seigneur dans ce pays. Et je prie pour que Dieu vous bénisse dans vos ministères, dans le service que vous rendez pour lui, et qu'il vous rend fructueux dans ce champ de mission qui est le Sénégal. Donc, que Dieu vous bénisse, et je ne vais pas oublier ma visite. Et je vais donc raconter aux amis chez nous ce qu'on a fait et comment le Seigneur travaille ici et qu'il y a pas mal de frères et de sœurs ici qui cherchent à servir le Seigneur. Donc, Dieu vous bénisse tous. Donc, nous continuons en quelque sorte ce qu'on a commencé hier l'après-midi. Mais maintenant, nous parlons de la sorcellerie et les malédictions. Bon, la sorcellerie et l'utilisation des malédictions sont très étroitement liées, donc je les distingue, mais en quelque sorte, dans une certaine mesure, c'est la même chose. Mais pour commencer, nous parlerons de chacune d'elles séparément, et nous commençons avec la sorcellerie. Maintenant, il y a beaucoup de questions concernant la sorcellerie, et une question, c'est la question de définition. Mais essentiellement, c'est, je crois, ici c'est ma définition, c'est l'utilisation d'un pouvoir spirituel invisible pour causer du tort à autrui. C'est l'utilisation d'une puissance invisible pour causer du tort à autrui. Et évidemment, cette puissance n'est pas la puissance de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui cause le tort à autrui. C'est une puissance de méchanceté qu'on utilise. Mais comme je dis, les conceptions varient. Je vais faire une distinction ici entre deux sortes de sorcellerie. La distinction, ce sont mes définitions. Je ne sais pas si vous allez les accepter, mais suivant donc mes constats, ce que j'ai lu, les conversations que j'ai eues, je crois que la distinction est valable. D'abord, il y a ce qu'on peut appeler une sorcellerie innée. C'est l'idée que certaines personnes ont une capacité innée dont peut-être ils sont même inconscients de nuire aux autres. Et cette conception est assez répandue. On peut trouver ça dans beaucoup de parties du monde. Et donc, on croit souvent que les sorciers, les sorcières de ce genre opèrent la nuit. Ils peuvent opérer d'une façon invisible. Et souvent, ce sont leurs âmes qui voyagent, qui va passer par là pour attaquer, même pour consommer l'âme ou l'esprit d'une victime, conduisant finalement à la mort. Et donc, c'est quelque chose qui est inné en certaines personnes. Donc, dans les situations où il y a de telles conceptions, on pense que le malfaiteur peut souvent être identifié à travers des rêves. Je crois qu'au commencement, je vous avais raconté une histoire de mon séjour, la période quand je travaillais au Congo, à un lieu qui s'appelle Aomba. Il y avait un étudiant qui accusait un autre étudiant de l'avoir attaqué. Et son évidence est que chaque fois qu'il tombait malade, la nuit avant, il voyait cet étudiant s'approcher de lui dans un rêve. Et donc, c'est ça ce qu'il a présenté comme évidence. Mais de telles idées sont assez répandues. Peut-être même pour le sorcier, la sorcière aussi, l'évidence de ce qu'il ou elle a fait, c'est un rêve qu'il ou elle a eu, dans lequel ils ont voyagé et ils ont attaqué les autres. Il n'y a aucune référence que je peux trouver dans la Bible à ce genre de sorcellerie. Je n'ai pas trouvé de référence. Je ne crois pas qu'on peut aller à la Bible et dire « Ah, voilà, c'est ça », parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas présent. Et il n'y a, je crois, aucune raison évidente ou empirique pour supposer que de telles conceptions sont vraies. Maintenant, je ne veux pas dire qu'elles sont fausses, je ne veux pas dire catégories comme cela, mais je crois qu'il y a de grandes questions et nous devons nous poser la question. Quand il y a un phénomène, et l'évidence vraiment, ce sont les rêves, bon, évidemment les maladies aussi, mais ce sont les rêves, est-ce qu'on peut accepter de telles idées? C'est quelque chose qui est invisible, quelque chose qui passe dans le domaine invisible, et donc je vais laisser à ce point-là. Deuxième chose, c'est la sorcellerie mécanique. Et ici, c'est différent, parce qu'ici, il n'est pas question d'une capacité innée, mais il est question, disons, de certaines connaissances qu'on peut acquérir par lesquelles on pourrait nuire aux autres. Et il s'agit de certaines choses qu'on fait ou certaines choses qu'on dit. Donc, on peut employer les objets, comme les gris-gris, les objets de magie, et les manipuler d'une manière ou d'une autre. On peut employer les paroles. Peut-être il y a des paroles spéciales magiques. C'est un peu partout dans le monde, l'idée qu'il y a certains mots magiques qu'on peut employer et qui vont ouvrir des portes ou qui vont faire du mal ou qui vont acquérir des bénédictions, des faveurs et ainsi de suite. Peut-être il y a l'invocation des esprits. Donc on cite le nom de l'esprit, au nom de tel, ou on cite le nom de Dieu. Dans la magie de l'ancien Orient, parfois, il y avait des gens, pas nécessairement les Israélites, qui citaient les noms de Yahweh, le Dieu d'Israël, l'Éternel, comme une invocation dans la magie. Il y a peut-être des substances qu'on utilise. Hein, parfois, dans certaines langues, on utilise le mot médicament pour ces substances, mais ce ne sont pas des médicaments, évidemment, dans le sens médical qu'on utilise dans les hôpitaux, mais des substances qu'on utilise pour la magie. Donc, la sorcellerie de ce genre, évidemment, ça peut être utilisé par n'importe qui, pourvu qu'on connaisse les moyens, les trucs qu'il faut utiliser. Mais aussi, il y a des gens qui sont considérés comme des experts dans le domaine, les sorciers, les sorcières, qui connaissent comment le faire, et il y a les autres qui les consultent, qui les payent, pour gagner quelque chose, pour affliger un ennemi, ou bien pour gagner certains avantages, maybe dans le travail, maybe dans le sport, maybe dans le mariage, les relations personnelles, et ainsi de suite. Vous connaissez, je suis sûr, tout cela, tout ce que j'ai dit. Et donc, nous parlons de cela. Dans l'Ancien Testament, la sorcellerie, dans ce deuxième sens, est reconnue. Elle s'était présente dans l'ancien Orient de cette époque, là où les Israélites vivaient. Et l'Ancien Testament fait mention de cela. Et le langage que l'Ancien Testament emploie pour parler de ce genre d'activité est un langage qui est tiré des nations limitrophes, donc de la Syrie, de Babylone, de l'Égypte, et ainsi de suite. Ils utilisent le même langage. Mais il y a très peu de références dans l'Ancien Testament. Très peu. Vous cherchez des références à la sorcellerie, c'est très peu. Et le plus souvent, dans les contextes où c'est carrément défendu. Et donc la loi dit, vous ne devez pas faire ceci. Vous ne devez pas faire cela. C'est interdit, absolument, par la loi de Dieu. Mais aussi, je crois que l'absence générale de cette conception de sorcellerie dans l'Ancien Testament est due au fait que leur conception de Dieu était si grande. C'est ce que nous avons souligné pendant la semaine, que dans la Bible, on prêche, on communique, on révèle un Dieu qui est grand, qui est puissant, qui est bon, et qui protège son peuple. Et donc le peuple d'Israël était conscient de Dieu comme le bouclier qui les protégeait. Et donc il me semble qu'il ne songeait pas tellement à ces choses, surtout pendant des périodes de grande foi. Parce que vous savez, dans l'histoire d'Israël, il y a de bonnes périodes quand ils mettent leur confiance vraiment à Dieu. Il y a aussi de mauvaises périodes, quand ils s'égarent, quand il y a l'apostasie, ils commencent à louer, adorer d'autres dieux. Mais pendant les bonnes périodes, ils étaient conscients. Dieu est pour nous, il est le Dieu vivant, il protège son peuple. Et donc, je crois qu'il ne réfléchissait pas beaucoup sur ces choses. Il n'y a pas d'histoire concernant ces choses parmi le peuple de Dieu. Et cela souligne encore une fois, je ne vais pas encore parler beaucoup de ceci, mais ça souligne encore l'importance de notre vision de Dieu. Est-ce que notre Dieu est grand? S'il est grand, ses conceptions, ces choses ne vont pas entrer beaucoup dans nos pensées et dans nos discours, parce que elles ne sont pas pertinentes. Dieu est là, Dieu est présent, Dieu protège. Pourquoi parler de ces choses? Dans l'Ancien Testament, il y a aussi une question de la nature de la sorcellerie qui est mentionnée. Il y a pas mal de mots, mais ces mots sont parfois difficiles à traduire, à identifier exactement le sens. Parce que parfois, quelque chose est défendu, mais on n'explique pas exactement de quoi il s'agit. Maintenant, pour les gens de l'époque, ils connaissaient de quoi il s'agissait. Mais nous voici, 3000 ans, peut-être 3000 et demi, et nous sommes confrontés avec les mots, mais nous ne connaissons pas tout le contexte dans lequel ces mots étaient employés. Donc le sens exact des mots n'est pas toujours si clair. Nous savons qu'une chose qui était surtout défendue, c'était de consulter le divin, de consulter d'autres dieux, de chercher des conseils, chercher à connaître le futur à travers les moyens occultes magiques. Ça, c'était carrément défendu. Ce n'est pas clair dans quelle mesure on utilise les mots qui parlaient d'une sorcellerie qui pourrait nuire aux autres. Certains termes peut-être, mais ce n'est pas clair. Un des passages qui semble parler peut-être de ce genre de sorcellerie, c'est Ézéchiel 13, vers la fin du chapitre, verset 18 à 19, il y a des femmes qui employaient certains moyens pour faire du mal aux autres. Mais elles sont aussi appelées prophètes, et dans la question c'est, est-ce qu'elles faisaient la sorcellerie, ou est-ce que c'était plutôt qu'il exprimait de mauvaises, de fausses prophéties, et pas les mensonges, elles entraînaient les gens vers dans le désastre. Est-ce que c'était ça plutôt que la sorcellerie comme telle? Donc, on ne sait pas exactement. Dans le Nouveau Testament, on trouve la sorcellerie quelques trois, quatre fois. On accusait Jésus d'être un sorcier. On n'a pas utilisé le nom, mais on a dit qu'il chasse les démons par la puissance de Satan et qu'il était possédé par un démon. Ça, c'est dit, vous êtes un sorcier. Vous faites ces miracles, vous chassez des démons parce que vous êtes sorciers. Vous utilisez une puissance néfaste, méchante, pour faire vos miracles. Dans le livre des Actes, Luc parle de deux magiciens, Simon, qui était en Samarie, il faisait des prodiges, les gens étaient étonnés par ce qu'il a fait, il était converti, mais une sorte de point d'interrogation sur sa conversion, parce qu'il cherchait à acheter le don, de donner l'esprit aux autres. Mais il est là, on ne sait pas s'il a fait la sorcellerie ou si c'était seulement les merveilles pour étonner les gens. On ne sait pas. De plus, il y avait un homme qui s'appelait Bar-Jésus ou Elimas. Paul et Barnabas l'ont rencontré à Paphos, en Chypre. Et il était le compagnon du dirigeant romain de l'île de Chypre, le proconsul. Il accompagnait cet homme. Et c'est possible que son rôle était surtout de donner des conseils, qu'il consultait les esprits, les dieux, au nom de ce proconsul pour lui donner des conseils. Ce n'est pas clair s'il a, en fait, fait la sorcellerie. Dans les œuvres de la chair, Galates 5, Paul parle du fruit de l'esprit et des œuvres de la chair. Parmi les œuvres de la chair, il y a la sorcellerie. Le mot, et je vais vous donner le mot en grec, parce que c'est le mot pharmakeia. Pharmakeia. Et le mot peut parler d'une magie qui cherche à nuire les autres ou une magie qu'on peut employer à guérir les autres. Mais bien sûr, dans le mot, il y a la conception qu'il y a des gens qui peuvent nuire aux autres. Et c'est une œuvre de la chair. C'est quelque chose qui provient de la nature pécheresse. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui devrait être pratiqué parmi les chrétiens. Dans l'Apocalypse, on fait deux fois mention des sorciers. D'abord, c'est Apocalypse 21, verset 8. Les sorciers, et encore, c'est le mot qu'on emploie, c'est lié avec ce mot pharmakeia. Les sorciers font partie de ceux qui subiront le jugement. Ils seront jugés. Dieu va juger les sorciers. Deuxième chose qu'il dit, c'est que les sorciers resteront pour toujours en dehors de la nouvelle Jérusalem. Maintenant, le point de tout cela, c'est que la Bible ne s'engage pas tellement dans une discussion détaillée de sorcellerie. Maintenant, vous êtes des pasteurs, vous êtes aussi étudiants de la parole de Dieu, vous lisez la parole de Dieu tous les jours pour vous préparer, pour vous édifier vous-même. Vous connaissez la parole de Dieu. Je suis sûr que vous avez parcouru la parole de Dieu. Vous n'avez pas trouvé grand-chose sur la sorcellerie. Et donc, quand nous voulons savoir qu'est-ce que Dieu pense de la sorcellerie, il faut jeter un regard par-ci, par-là dans la parole pour apprendre. Deuxièmement, donc, je veux parler des malédictions. Dans l'ancienne Mésopotamie, ça c'est la Syrie, le Babylone et ainsi de suite, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie ont été consacrés à se défendre des malédictions. Vraiment, on craignait les malédictions. Et donc, l'idée est que quand il y avait une malédiction, on invoque le nom d'un esprit ou le nom d'un dieu pour faire nuire, pour nuire aux autres. Donc, c'était l'invocation qui était importante. En même temps, quand même, il semble que les gens pensaient qu'une fois lancées, les paroles avaient un pouvoir pour nuire aux autres. Le mot « compère » était puissant et pouvait nuire aux autres. Il faut seulement lancer le mot, et le mot est jeté, et le mot va atteindre son objectif et va nuire à la personne visée. Il existait des rites, de processus qui permettait aux gens de révoquer et de repousser des malédictions. C'était une sorte de guerre spirituelle. Ceux qui maudissaient, ceux qui se défendaient des malédictions. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit concernant les malédictions? La Bible parle, utilise le concept de malédiction plus ou moins 230 fois. Donc, c'est présent souvent dans la Bible. Mais ce qui a noté, c'est que c'est utilisé surtout de l'action de Dieu quand il juge. C'est Dieu surtout qui maudit. Et quand il maudit, effectivement, c'est un jugement. Il juge les pécheurs. Il maudit ceux qui commettent le péché. Et c'est surtout utilisé dans le contexte de l'alliance. Comme vous savez, Dieu a fait une alliance avec son peuple. Une alliance, c'est quand on établit une relation personnelle entre des personnes. Et donc Dieu a créé une alliance avec son peuple Israël, et essentiellement par laquelle ce peuple d'Israël devient le peuple de Dieu. Et Dieu devient le Dieu de ce peuple. Et il y a des obligations réciproques, des promesses, ainsi de suite. Et il faut la fidélité à l'alliance. C'est comme un mariage. Quand vous vous mariez, c'est entre deux personnes, entre un homme et une femme. Et il y a des promesses, il y a des obligations. Et il faut la fidélité. Et il y a des conséquences quand il y a l'infidélité. Et donc, même chose avec Dieu et son peuple. Et Dieu nous montre, ou montre pour son peuple Israël, je devrais dire, Dieu montre pour eux ce que la fidélité veut dire. Et c'est établi dans la loi. Être fidèle à Dieu veut dire observer la loi de Moïse que Moïse leur avait donnée et qui est venue de Dieu. Si on est fidèle à l'alliance, il y a des bénédictions. Si on est infidèle à l'alliance, il y a des jugements. Maintenant, les jugements sont appelés des malédictions. Mais c'est la même chose. Infidélité, c'est péché. Et Dieu juge le péché. Il maudit le pécheur. C'est effectivement la même chose. Mais il faut reconnaître que c'est dans le contexte de cette relation personnelle. Et la grande bénédiction n'est pas toutes les choses mentionnées, donc la prospérité, les enfants, la paix, le pays que Dieu leur avait donné. Mais c'est Dieu lui-même. Il est la grande bénédiction. Et la grande malédiction n'est pas la famine, la guerre, la perte du territoire, c'est plutôt la rupture de la relation avec Dieu. Ça, c'est la vraie malédiction. Et tous les autres découlent de cela. Mais il faut noter que la malédiction est là dans le contexte de l'alliance. Il est question de la loi de Dieu. Maintenant, l'autre chose. La puissance des malédictions, de Dieu ou d'autres malédictions, n'est pas dans les mots. C'est dans la personne qui exprime les mots. Et donc, le mot de Dieu est puissant parce que c'est le mot de Dieu. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Mais c'est parce que Dieu a dit ça. Si vous venez ici la nuit et il est obscur dans cette chapelle et vous dites que la lumière soit, il n'y aura rien. Je vous assure. Vous pouvez essayer si vous voulez. Mais il n'y aura rien. Mais quand Dieu parle, ce n'est pas le mot, c'est le fait que c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Et dans la parole de Dieu effectue toutes les choses. Parce que c'est Dieu. C'est la même chose réellement avec nos prières. Les mots de nos prières n'ont pas de puissance en eux-mêmes. C'est le Dieu à qui nous parlons qui a la puissance. Et c'est pour ça que nous venons auprès de lui avec nos mots. Mais sachant toujours que finalement, sa réponse à nos prières va dépendre de sa bonne volonté et ce qu'il veut dire et ce qu'il est en train de faire dire dans la situation. Il y a d'autres malédictions divines qui ne sont pas une partie de l'alliance. Donc Dieu a maudit le serpent. Dieu a maudit Caïn quand il a tué son frère Abel. Dieu a aussi maudit le sol comme nous avons vu auparavant. Toujours lié avec le péché. Et donc comment répondre aux malédictions de Dieu? Il n'est pas question d'un rite de révocation de malédiction. Ce n'est pas ça. Nous savons comment réagir face à la malédiction de Dieu. Et c'est un mot, c'est repentance. C'est comme ça qu'on réagit quand on sait qu'on est sous le jugement de Dieu. Et donc, dans la Bible, toujours quand les gens ont expérimenté le jugement de Dieu, quand ils sont sous la colère de Dieu, la réponse c'est de se repentir. Donc, Jonas, il va à Ninive, il prêche, d'ici 40 jours, cette ville sera détruite. Elle est Ninivite. Ont prié, ils se sont repentis. Ils n'ont pas commencé un processus pour révoquer la malédiction. Ils se sont repentis. C'est toujours ça la réponse au péché. Et finalement, et nous savons ceci, Jésus est devenu une malédiction pour son peuple. Donc il y a la malédiction de Dieu sur les pécheurs. Jésus a pris cette malédiction. C'est-à-dire, il a pris notre jugement. Il est devenu maudit lui-même. La parole de Dieu dit, maudit est celui qui est pendu sur un bois. Et Jésus était pendu sur la croix pour nous, pour que nos péchés soient effacés, pour que Dieu soit rendu propice envers nous. Et donc ça, c'est la réponse pour nous, les enfants de Dieu, à toutes les malédictions de Dieu. Jésus a pris toutes ces malédictions pour que nous puissions connaître les bénédictions. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire concernant les malédictions des hommes? Si on est maudit par un homme, qu'est-ce qu'on va dire? La Bible nous aide. Ici, elle nous dit nombre de choses sur cette question. D'abord, Proverbe 26, 2. Proverbe 26, 2. La malédiction sans cause n'a point d'effet. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Et c'est très important ce qu'on dit. Aucune malédiction n'aura d'effet à moins que Dieu lui-même ne le permette. C'est Dieu qui autorise ou qui n'autorise pas la malédiction. Et donc aucune malédiction de l'homme peut atteindre le peuple de Dieu à moins que Dieu ne le permette. Mais Dieu est là pour ses enfants. Lorsque David s'est enfui de son fils, vous savez comment David a été chassé par son fils Absalom. Et quand il était en train de courir, il y avait un homme qui s'appelait Shimei, qui l'a maudit. Si vous lisez le récit, vous allez voir ça. David est en route, il quitte Jérusalem, il est sur la route avec les militaires qui sont restés fidèles. Et cet homme vient, il maudit, il est sur les collines, il jette la poussière, il condamne David. Et David a répondu comme ceci. S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David, qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Ce que David dit ici, c'est, si cette malédiction vient de Dieu, si Shimei maudit, parce que Dieu lui a dit maudit Jésus, David, pardon, maudit David. Donc la malédiction aura son effet parce que Dieu l'a autorisé. Mais sinon, la malédiction va tomber inutile. Et effectivement, David a fui, mais fui la bataille, il a remporté la victoire, il est rentré à Jérusalem. Et la malédiction de Shimaï n'a eu aucun effet, n'a produit rien, n'a accompli rien. Derrière la magie humaine et la malédiction, il y a toujours un pouvoir malin. Je crois que nous apprenons ça dans la Bible aussi. Lorsque Aaron a accompli des signes en Égypte, les magiciens égyptiens ont essayé de reproduire les mêmes prodiges. Donc quand les fleuves sont devenus comme du sang, suite à l'action d'Aaron, les magiciens égyptiens ont fait la même chose. Ils étaient quand même un peu puissants, ils pouvaient faire les choses. Et derrière leur magie, il y avait les dieux de l'Égypte. Donc, d'une certaine perspective, ce qui se passait en Égypte était un combat entre le Dieu d'Israël et les dieux de l'Égypte. Parce que derrière leur magie, il y avait les dieux d'Israël, les dieux d'Égypte. Et ces magiciens étaient intimement liés avec la religion égyptienne et les dieux égyptiens. Donc, il y avait cela. Dans le livre de Job, quand Job s'est lamenté, au chapitre 3, il a parlé de ceux qui maudissent les jours. Maintenant, lui-même, Job, a maudit le jour de sa conception et il a maudit le jour de sa naissance. Tellement il était donc éprouvé. Il a voulu qu'il ne soit jamais né. Et il a maudit le jour de sa naissance. Et il a dit, il a parlé de ceux qui maudissent les jours. Et il les identifie comme ceux qui savent exciter le Léviathan. C'est Job 3, verset 8. Maintenant, dans la Bible, Léviathan, c'est une sorte de monstre, mais c'est une métaphore pour les pouvoirs de méchanceté, les puissances surnaturelles de méchanceté. Et donc, ce que Job dit ici, c'est que ceux qui maudissent, ils utilisent la puissance de méchanceté, les puissances, Satan, et ainsi de suite. Il reconnaît que derrière la malédiction, il y a des forces diaboliques. Dans le Nouveau Testament, quand Jésus a été critiqué par certains juifs, ils ont dit, bon, vous chassez les démons par Béelzéboul. Il a dit non, effectivement, ce n'est pas le pouvoir de l'esprit. Mais ce qui est important ici, c'est que Jésus et les dirigeants juifs ont reconnu seulement deux sources de pouvoir qui peuvent faire des prodiges, comme chasser les démons, faire des miracles, et ainsi de suite. Ou bien c'est Satan, Béelzéboul, ou bien c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas de troisième option. Et donc pour Jésus, et Jésus ne nie pas ceci, soit il chasse les démons par le pouvoir du Saint-Esprit, soit ils chassent les démons par le pouvoir de Satan et les démons eux-mêmes. Et Jésus dit, bon, voilà ce que je fais. Comment est-ce que ça peut être Satan? Nécessairement, c'est l'esprit. Mais ce qui est significatif, c'est qu'il reconnaît ces deux possibilités. Et donc, derrière la sorcellerie, derrière la magie, on reconnaît qu'il y a le pouvoir du diable. Maintenant, je veux prendre une étude de cas. C'est le cas de Balaam, de qui je veux parler maintenant. Et j'espère que vous connaissez l'histoire de Balaam. À l'époque, pour vous rappeler, Israël avait quitté l'Égypte. Elle est, après 40 ans, arrivée au fleuve Jourdain. Ils sont aux côtés du fleuve. Ils sont prêts à traverser le fleuve pour entrer dans la terre promise. Et le roi de Balaam voit Israël. Il voit comment ils sont nombreux, comment ils sont puissants. Parce que le camp d'Israël était là, à côté des fleuves, sur une plaine, et on pouvait voir les multitudes d'Israélites. Et le roi de Moab, son nom était Balak, il a peur. Il pense qu'il doit quand même combattre ce peuple, parce que sinon ce peuple va donc le dominer. mais il ne pense pas qu'il peut les vaincre. Et donc, il appelle Balaam, un sorcier, et il lui demande de venir l'aider et de maudire Israël. Et il dit à Balaam, si vous venez et que vous les maudissez, je vais vous donner beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Je vais bien vous payer. Maintenant, ce Balaam-là, il est venu de loin. Et ça, c'est significatif parce que ça montre qu'il était avec une renommée très répandue. Il était, pour ainsi dire, il était connu internationalement comme un sorcier qui pouvait quand même faire des choses et nuire aux autres. Et donc, ce Balak a appelé Balaam et lui a dit, je vous appelle car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Il pensait que vraiment, nous avons besoin d'un expert. Et Balaam, c'était l'expert de l'époque, à cette époque. Balaam, et deux ou trois choses concernant Balaam. Balaam utilisait des méthodes de la sorcellerie. Nous trouvons ça en Nombre 24, verset 1, quand Balaam essaie de maudire Israël. Il a déjà essayé, il a joué, il essaie une dernière fois, et il abandonne les méthodes de sorcellerie. Parce qu'il avoue que ces méthodes n'accomplissent rien. Elles sont ineffectives, ils ne font rien. Il essaie de maudire et il n'a pu rien faire. Il n'a rien fait. Et donc, il abandonne la sorcellerie, il cherche autre chose. Deuxième chose, ce que nous voyons ici, et c'est ici dans la chose la plus importante, Dieu transforme Balaam en prophète de bénédiction. Il reste un sorcier, mais Dieu s'empare de lui, Dieu le saisit. Et ce qui sort de la bouche de Balaam ne sont pas des malédictions, mais ce sont des bénédictions. Dieu utilise le sorcier pour bénir son peuple. Et l'histoire nous montre, entre autres choses, que Dieu peut utiliser n'importe qui pour effectuer ses desseins. Nous voyons la même leçon au commencement de l'histoire, parce que si vous connaissez l'histoire, vous allez vous rappeler qu'à un certain moment, Balaam est en route pour aller auprès de Moab, et l'ange de l'Éternel arrive pour l'empêcher, ou bien pour donc lancer un défi. Et l'âne de Balaam, sur lequel il est en train de voyager, voit l'ange, mais Balaam ne le voit pas. Et finalement, l'âne parle avec Balaam, un âne, un animal, n'est-ce pas? Une bête de voyage. Ce qu'on peut voir dans les routes, dans les routes de Dakar. Et ça parle à Balaam. Et ça, c'est pour montrer que Dieu peut parler à travers n'importe quoi. Il peut utiliser même une bête pour parler. Et donc, plus tard, il peut aussi utiliser un sorcier. Parce qu'en quelque sorte, Balaam, il est cet âne. Ça va? Dieu a utilisé l'âne, maintenant Dieu parle à travers Balaam. Et finalement, nous voyons l'incapacité de Balaam. Face au pouvoir de Dieu, Balaam ne pouvait pas maudire Israël. Et Balaam a déclaré la futilité de toute tentative de sorcellerie ou de malédiction contre Israël. Et ici, ce sont les mots de Balaam au chapitre 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Toutes ces affaires sont inutiles si on veut nuire au peuple de Dieu. Ils sont invisibles parce que Dieu est avec eux. Et donc, il continue en disant ceci. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Maintenant, une autre chose à noter ici, c'est que selon le narratif biblique, Israël ne savait rien de tout ce qui se passait. Israël est sur la plaine, dans le camp là-bas, dans les tentes, ainsi de suite, tandis que cette affaire avec Balaam et Balak se passe dans les montagnes. Et il regarde Israël des montagnes. Il peut voir le peuple d'Israël. Mais les Israélites ne sont pas là. Ils ne savent pas ce qui se passe. Tout cet effort de les maudire, ils sont ignorants. Et ils n'ont pas besoin de savoir. Parce que Dieu s'occupe de leur protection. Et la leçon là, c'est pour le peuple de Dieu à travers les siècles. Après Balaam aussi. La leçon là, c'est que Dieu nous protège. Même il y a des dangers dont nous ne savons rien. Il y a Satan qui voudrait nous faire tant de mal. Et nous n'en savons rien. mais Dieu nous protège à chaque instant. Dieu tombe autour de son peuple. Il est là pour les protéger contre la main de Satan. Mais il y a une autre chose. Il y a un post-scriptum dans l'histoire. Vous savez, un post-scriptum, quand vous écrivez une lettre et puis à la fin, vous avez oublié quelque chose, vous écrivez ça à la fin. Il y a une autre chose à ajouter ici. Peu de temps après, les Israélites ont sérieusement péché. Ils ont adoré ce qu'on appelait le Baal de Péor. Péor, c'est un dieu. Le Baal, c'est un faux dieu, un dieu des Cananéens. Ils ont adoré ce Baal. Et ils ont été séduits par les femmes moabites. Balak était le roi de Moab. Maintenant, ce sont les femmes moabites qui séduisent les hommes israélites. Ils les séduisent à aller adorer leur dieu et puis à participer avec elles dans l'immoralité sexuelle. Et c'était un moment affreux. C'est mentionné plusieurs fois dans l'Ancien Testament comme un exemple de ce qu'Israël a fait, comment Israël a péché. Mais ce sont les femmes moabites qui ont entraîné les hommes israélites à faire de telles choses. Et plus tard dans le livre, et si vous voulez chercher ça plus tard, c'est Nombre 31, 15 à 16. Moïse nous dit que c'était Balaam qui les a conseillés de faire ainsi. Balaam a dit à Balak, le roi de Moab, « Si vous pouvez séduire les Israélites, si vous pouvez les induire dans le péché, à ce moment-là, Dieu va les juger. La sorcellerie ne peut rien faire avec ce peuple. Le Dieu les protège. Mais Dieu va les juger s'ils pêchent. Donc il faut agir de sorte qu'ils pêchent, de sorte qu'ils commettent l'idolâtrie, l'adultère, l'immoralité sexuelle. S'ils se plongent dans ces choses, à ce point-là, la colère de Dieu va brûler contre eux et il va les juger. Et c'est significatif que ça montre, disons, le ruse de Satan, comment il est rusé et ce qu'il connaît. Il connaît que notre grand problème en tant que chrétien, en tant qu'homme et femme, c'est le problème toujours du péché. C'est par le péché que nous pouvons faire naufrage de notre foi. C'est par le péché que nous pouvons exciter la colère de Dieu. Et la grande bataille spirituelle dans laquelle nous sommes engagés, ça concerne nos cœurs et notre fidélité à l'égard de Dieu. Et donc toujours l'armure dont nous avons parlé hier. Donc la vérité, la justice, la fidélité, la foi, la parole de Dieu et ainsi de suite. Satan veut nous faire pécher. Parce que quand nous péchons, nous tombons sous le jugement de Dieu. Et nous risquons de nous égarer de Dieu. Dans notre guerre spirituelle, Satan est surtout le grand tentateur. Il n'est pas surtout la grande force derrière les sorciers, ceux qui maudissent. Il est le grand tentateur qui veut nous induire dans le péché. Et Balaam a reconnu le pouvoir du péché pour nuire à Israël. Bon, je veux parler de l'Éphésien. C'est en quelque sorte ici le point culminant de ce que nous voulons dire ce matin. J'ai dit hier, je crois, que de toutes les anciennes villes gréco-romaines à l'époque de Paul, Éphèse était peut-être le plus reconnu pour la magie. Il y avait une connaissance de magie, il y avait des livres de magie, on pouvait acheter des livres dans lesquels on pouvait trouver comment faire la magie, comment faire la sorcellerie, comment avoir des bénédictions et ainsi de suite. Ces choses se trouvaient en Éphèse. Et donc, comme Paul a écrit aux Éphésiens, ce contexte était aussi dans sa pensée. Et le livre est écrit avec ce problème particulier en tête, quand il a écrit. Et le langage que Paul emploie est aussi en partie le langage de sorcellerie. Il utilise certains mots, certaines expressions qui communique l'idée de la sorcellerie. Donc, par exemple, il y a deux choses que je veux mentionner. Et on a déjà lu ça avant, quand on a lu la parole de Dieu ce matin. Donc, il fait l'exaltation, il fait référence à l'exaltation de Jésus au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Ce sont les termes grecs que Paul emploie assez souvent pour parler des puissances de méchanceté, des ténèbres. Hein? Mais aussi, ce sont des mots qui étaient employés dans la sorcellerie, les puissances que les sorciers utilisaient pour faire le travail. Ils invoquaient ces noms. Ils pouvaient invoquer une domination avec un certain nom. Ils pouvaient invoquer un trône, une dignité, et ainsi de suite. Mais puis Paul poursuit, et il dit que Jésus est au-dessus de toute domination, toute autorité, et ainsi de suite. Et puis il dit, et sur tout nom qui peut se nommer. Maintenant, cette expression, tout nom qui peut se nommer, peut aussi être traduit, tout nom qui peut être invoqué. Et l'invocation des noms est ce que les sorciers faisaient. Ils invoquaient un nom pour donner la puissance à leur malédiction. Donc on invoque le nom de tel esprit, et puis on maudit. Au nom de tel, je fais ceci. Au nom de tel, je maudis celui-là, et ainsi de suite. Et Paul utilise ce langage pour rappeler aux Éphésiens que le Seigneur Jésus-Christ est supérieur à toutes ses puissances. Et Paul dit quatre choses concernant sa suprématie. Et je veux que nous voyons ça dans le texte d'Éphésiens. Donc si vous avez vos Bibles avec vous, donc c'est Éphésiens chapitre 1, et verset 19 ou 20, jusqu'à verset 23. Donc, dans cette section, Paul est en train de prier pour les Éphésiens. Il veut qu'ils sachent certaines choses. Et au verset 19, il veut surtout qu'ils sachent quelle est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu envers eux. Il veut que les Éphésiens sachent la grandeur de la puissance de Dieu. Ça nous fait revenir à ce qu'on a dit hier. Nous devons connaître combien notre Dieu est grand. Et Paul prie pour que les Éphésiens puissent connaître comment Dieu est grand pour eux, puissant pour eux. Et donc, il parle de la puissance de Dieu. Il dit quatre choses concernant la puissance de Dieu. D'abord, c'est la puissance de la résurrection. On voit cette puissance dans la résurrection. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. En ressuscitant Jésus d'entre les morts, Dieu a inauguré le nouvel âge de l'Esprit. C'est un nouvel âge qui commence. L'ancien âge est maintenant vaincu. C'est le nouvel âge qui commence avec Jésus. Et dans ce nouvel âge, les puissances des ténèbres sont déjà vaincues. La puissance de la résurrection de Jésus, puissance qui a renversé la mort, qui a ressuscité Jésus, comme les prémices de tous ceux qui meurent en lui. Il veut que les Éphésiens connaissent la grandeur de cette puissance, que ce n'est pas seulement un miracle entre autres. C'est quelque chose qui vraiment a changé l'histoire du monde et nous a donné l'espérance de la gloire. Il parle deuxièmement du fait que Jésus est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Et donc Jésus a une autorité totale sur toute la création, y compris les puissances de méchanceté. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de puissance qui est au-delà de la puissance de Jésus. Jésus est exalté en-dessus de toute autre chose. Même plus qu'en dessous. C'est ça ce qu'il dit. Il veut dire plus qu'en dessous. Loin au-dessus de toute autre chose. Et il veut que les Éphésiens saisissent cela. Il veut savoir que Dieu a placé toutes choses sous les pieds de Jésus. Dieu a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Toutes choses sont sous les pieds de Jésus. Il n'y a rien qui n'est pas sous les pieds de Jésus. Et toutes choses sont sous les pieds de Jésus pour l'Église. Tout est soumis à Jésus pour l'Église. Et ça nous rappelle que Jésus est notre Sauveur. Il est le médiateur de notre salut. Il est mort pour nous, il est ressuscité pour nous, il est monté au ciel pour nous, il est assis à la droite de Dieu pour nous. Et maintenant, il bâtit son Église et il protège son Église, comme nous avons dit hier. Et il a cette autorité pour qu'il puisse faire cela. Son grand travail au ciel, c'est de bâtir son Église et de les amener jusqu'à la gloire, les protéger, de sorte que personne ne peut les arracher d'entre ses mains. Paul veut que les Éphésiens sachent cela. Et finalement, Paul veut que les Éphésiens puissent savoir aussi que nous sommes assis avec Jésus. Nous avons déjà parlé de ça, mais il faut y revenir. Parce que si Jésus est assis à la droite de Dieu, et que nous sommes en Jésus, nous sommes assis avec lui. Nous sommes avec lui. Et donc nous sommes dans cette place de pouvoir, de puissance, protégée de toutes les forces des ténèbres. Ce qui est significatif ici, je crois aussi, c'est le fait que Paul se répète. Il dit la même chose d'une manière, et puis il dit la même chose d'une autre manière, et puis encore d'une autre manière. C'est comme s'il est en train de marteler un clou, parce qu'il veut vraiment que ça entre dans la tête. Ça va? Et donc il dit ça encore et encore. Sachez, vous êtes en Éphèse, c'est un lieu de sorcellerie, mais je veux que vous sachiez la puissance de Dieu. Et la puissance du Seigneur Jésus, et le pouvoir de la résurrection, qui dépasse infiniment toutes ces choses que les Éphésiens craignent. Vous ne devez pas être comme eux, craindre les puissances, parce que vous êtes en Christ. Et en Christ, il ne peut pas y avoir de crainte, parce que vous avez cette grande sécurité. Notez l'approche de Paul à la sorcellerie. C'est un petit point, mais c'est important. Paul ne fait pas référence explicite à la sorcellerie ici. Il n'y a pas de mot sorcellerie dans le livre d'Éphésiens. Seulement en Galates, il parle de sorcellerie. Et puis, c'est seulement un mot. C'est une œuvre de la chair finie. Il ne discute pas. Il ne discute pas ce que les sorciers faisaient. Il ne dit pas si ce qu'ils faisaient, ils pouvaient réellement faire, ou si c'était des mensonges. Il ne discute pas quels trucs ils ont employés et ainsi de suite. Il n'entre pas dans les détails. Ça ne le concerne pas. Il ne veut pas faire de recherche dans les activités des ténèbres. C'est mauvais là-dedans. C'est souillé. C'est corrompu. Il ne discute pas ça. Ce qu'il dit aux Éphésiens, c'est ceci. Que s'ils croient aux sorciers et aux démons ou non, Christ est infiniment supérieur à toutes les puissances des ténèbres et souverain sur eux. Donc Paul ne réfute pas leur croyance et il ne les confirme pas non plus. Ce n'est pas important. Ce qu'il dit, c'est que quoi qu'il puisse se passer dans le domaine des puissances invisibles, Christ est supérieur. Et donc, pour nous, nous ne discutons pas ce que les gens font dans la sorcellerie. Ça ne nous concerne pas. Ça ne concerne pas la Bible. Nous avons dit, dans l'Ancien Testament, il y a très peu. Dans le Nouveau Testament, il y a très peu. Mais ce qu'on dit, c'est si vous craignez ces choses, sachez la suprématie de Jésus, la puissance de Dieu. Sachez ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Les Israélites ne savaient pas ce qui se passait dans les montagnes là, quand Balaam essayait de maudire parce qu'il y avait beaucoup d'argent pour lui. S'il pouvait seulement maudire, et il ne pouvait pas le faire. Mais les Israélites ne savaient pas. Ils n'avaient pas besoin de savoir parce que Dieu les protégeait. Nous n'avons pas besoin de savoir ce qui se passe dans le domaine des ténèbres. Nous ne voulons pas savoir ce qui se passe dans le domaine des ténèbres. Mais nous voulons savoir que Jésus est infiniment supérieur. Notez, Satan continue son hostilité. Il est hostile envers nous. Nous avons parlé de persécution. Et donc, il veut nous attaquer. Il veut nous induire dans le péché, dans l'apostasie. Nous ne sommes pas épargnés de la guerre spirituelle. Nous avons parlé de la suprématie de Jésus, la résurrection, ainsi de suite. Et tout ça, c'est absolument vrai. Mais dans cet ange, aussi longtemps que nous sommes ici, comme la lumière qui cherche à percer les ténèbres, nous allons faire face aux souffrances et à l'hostilité de Satan. Maintenant, le temps est presque passé, mais il y a des mots de conclusion. J'ai 7 points. Si vous avez les notes que on vous a données au commencement, il y a 7 points qui sont tous des répétitions. Ça va, ce sont des répétitions. Quand moi aussi, je m'attelle sur les clous pour bien insérer les clous dans la tête, n'est-ce pas? Il y a 7 répétitions ici, des choses qui, je crois, sautent de nos discussions pendant ces jours. Donc, première chose, Dieu est le Créateur et le Souverain Tout-Puissant de tout notre univers et il règne sur tout. Rien ne s'échappe à lui. Il n'est jamais frustré. Il n'est jamais vaincu. Il n'essaie jamais de faire quelque chose. Seulement, il fait les choses. Il ne fait pas des efforts Nous faisons des efforts. Dieu ne fait pas des efforts. Il fait seulement. Il agit seulement. Il est le Tout-Puissant. Il accomplit infailliblement ses desseins. Et il agit de sorte que toutes choses concourent au bien de son peuple. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont les appelés selon son dessein. Deuxième chose, Dieu est souverain sur les esprits. Les esprits ne règnent pas sur ce monde. Les esprits ne déterminent pas si nous réussissons ou si nous échouons. Les esprits ne déterminent pas si nous recevons des bénédictions ou des malédictions. Dieu seul décide ces choses. Lui seul est Dieu. Il est seul et il n'y a pas d'autre. Nul n'est comparable à lui. Il est notre Dieu. Et il règne sur toutes les choses. Et donc, les esprits, Satan, les mauvais esprits, qu'ils travaillent par des malédictions, la sorcellerie ou autre manière, ne peuvent rien faire au-delà de ce que Dieu leur permet de faire. Dieu règne sur ces choses. Nous avons été rachetés du pouvoir de Satan par le sang précieux de Jésus. Nous sommes les rachetés. Nous sommes son peuple. Nous appartenons à lui. Et en lui, nous avons cette grande sécurité de la puissance de Dieu qui nous tient dans sa main. Nous sommes en Christ. Christ est assis à la droite de Dieu, au-dessus des puissances des ténèbres. Et en lui, nous avons la sécurité. Nous n'avons rien à craindre de la part des sorciers, de ceux qui maudissent, des démons, et ainsi de suite. Nous devons nous battre avec l'armure que Dieu nous a donnée. Il y a la guerre spirituelle. La guerre spirituelle, c'est la guerre de Dieu. Nous avons le privilège et la grâce de combattre ensemble avec Dieu. Je crois qu'il faut le considérer comme ça. C'est un privilège que Dieu nous permet de combattre à son côté. Dieu pouvait faire cette guerre sans nous. Il n'a pas besoin de nous. Mais dans sa grâce, il est content de nous employer et que nous participions dans ce qu'il fait. Vous savez, quand j'étais jeune, mon père faisait beaucoup dans sa maison et même avec la voiture, il réparait la voiture, de telles choses, il était très compétent. Et parfois, il me permettait de l'aider. Maintenant, quand je l'aidais, parfois, effectivement, je ne l'aidais pas. J'étais un problème, mais quand même, il me permettait de l'aider. Et c'est parce qu'il voulait que je participe avec lui. C'était un privilège, c'était une grâce que je travaille ensemble avec papa. Et Dieu nous permet de travailler avec lui pour que nous puissions aussi grandir dans notre foi, dans notre connaissance de lui et de ce qu'il fait, participant dans ses œuvres. C'est un grand privilège. Je sais qu'être pasteur est parfois très difficile. C'est lourd, c'est un fardeau, mais c'est aussi un énorme privilège, un privilège énorme. Paul dit en 2 Corinthiens 4, verset 1, il parle que nous ne sommes pas découragés. Parce que nous avons ce grand ministère, le ministère de proclamer les bonnes nouvelles de Jésus par lequel les hommes et les femmes passent des ténèbres à la lumière. C'est un privilège énorme de travailler ensemble avec Dieu, les collaborateurs de Dieu, les travailleurs ensemble avec Dieu. Bon, je m'égare un peu, mais ce que je veux dire, c'est que nous travaillons avec Dieu, nous luttons avec Dieu, nous sommes dans ce combat de Dieu. Et l'armure que nous devons utiliser, c'est cette armure que Dieu nous a donnée. Le dessein de Satan, c'est de détruire les œuvres de Dieu. Notre tâche, c'est de tenir ferme et d'être lumière qui perce les ténèbres. Nous ne sommes pas là seulement pour être passifs et pour garder passivement notre justice et notre intégrité, mais pour avancer aussi dans les ténèbres, que nos vies soient un témoignage au monde. Notre unité, notre justice, notre vérité, et ainsi de suite. Que ce soit un témoignage. Et que notre vie soit l'évidence pour nos paroles. Parce que les gens voient comment nous vivons. Ils peuvent écouter nos paroles, mais ils voient aussi comment nous vivons. Est-ce que nos actions, nos vies donnent substance à nos paroles? C'est ça la question. Et donc, dans ce conflit, Ce qui est surtout important, ce sont nos vies, les vies d'intégrité, de justice. Et la parole que nous proclamons, la parole de Dieu, que nous puissions proclamer ça sans hypocrisie. C'est-à-dire, nous ne disons pas aux gens, bon, écoutez ce que je dis, mais ne regardez pas ce que je fais. Ce n'est pas ça. Nos actions peuvent détruire notre parole. Et donc, la bataille, c'est là que nous devons être des hommes et des femmes d'intégrité, vertu de l'armure de Dieu. Nous devons comprendre que dans cet âge, nous allons faire l'expérience de la maladie, des accidents, de deuil, de la douleur, parce que nous vivons dans un monde déchu et pécheur. On n'a pas besoin de chercher quelqu'un qui est responsable de nos souffrances, un sorcier ou autre. Nous souffrons parce que nous sommes dans ce monde. Mais nous savons aussi que rien ne nous arrive en dehors de l'amour de Christ. Si une épreuve vient, comme Paul a reconnu, cela vient pour nous faire du bien. Ce n'est pas à dire que l'expérience est bonne, c'est mauvais, c'est pénible, c'est quelque chose que nous ne voulons pas, mais nous devons voir que Dieu est en train, même à travers les choses les plus difficiles, de faire son travail en nous. Nous devons reconnaître, donc, à ce propos, et interpréter nos vies en fonction de la providence de Dieu. C'est Dieu qui guide nos vies. Nous ne devons pas interpréter nos vies en fonction des esprits et des sorciers et des malédictions. Il y a deux façons d'interpréter nos vies. Et il faut nettement distinguer entre les deux. Soit Dieu est souverain et il dirige nos vies et les vies de nos églises, ou bien c'est Satan et les démons et les sorciers et les jeteurs de sorts, et ainsi de suite. C'est l'un ou l'autre, ce n'est pas les deux. Et donc, il y a cette distinction entre deux manières de concevoir la vie. Nous devons faire confiance à Dieu seul. Nous avons un Dieu, et il est tout puissant. Et donc, quand il y a des difficultés, nous nous tournons auprès de lui. Pas nécessairement dans la solitude, mais ensemble, dans nos églises, avec les frères, avec les sœurs. Nous ne cherchons pas l'aide auprès de marabouts, par l'utilisation de fétiches et ainsi de suite. Nous n'avons pas besoin d'organiser des services spéciaux ou des rituels pour révoquer des malédictions. Si nous faisons ces choses, nous utilisons les âmes du monde, de la chair, et pas les âmes de Dieu. Il y a un verset ici, Hébreux 4, verset 16, qui nous parle à ce propos. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous nous approchons du trône de la grâce. Et finalement, écoutons la parole de Dieu. Que la parole de Dieu pénètre nos cœurs et nos intelligences pour nous transformer. Que cette parole de Dieu soit notre nourriture. Nous nourrissons nos églises par la parole de Dieu, mais nous avons besoin surtout de nous nourrir nous-mêmes. Si nous sommes nous-mêmes affamés, comment est-ce que nous allons nourrir les autres? Nous avons besoin de nous nourrir par la parole de Dieu et d'être des lecteurs, même des étudiants constants, sérieux, de la parole de Dieu. Nous l'écoutons, la parole de Dieu, et nous permettons à la parole de Dieu de remettre en cause nos idées, nos conceptions, de nous amener à la repentance, à la foi, et ainsi de suite. Que Dieu nous bénisse, que Dieu fasse son travail parmi nous. Je vais brièvement prier pour vous. Je prie pour vous. Mon Père, je prie pour mes frères et mes sœurs ici. Je te remercie pour eux et pour leur foi, pour le fait qu'ils t'appartiennent. Et je te demande d'être leur secours dans toutes les difficultés de la vie, dans tous les dangers, les épreuves qui peuvent leur arriver. Et qu'ils puissent produire un bon fruit pour le royaume de Dieu. Donc, je les mets entre tes mains, que tu sois avec eux, que tu bénisses ton Église au Sénégal. Et je te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Amen. Que Dieu soit loué ce matin. Donc, comme l'avait dit, donc, nous allons passer maintenant aux questions. si vous avez des questions à poser par rapport au sujet, donc le docteur Fernando est prêt à vous répondre. On dit souvent les bonnes marmites font la bonne sauce. Donc c'est l'occasion pour nous de poser des questions. Donc, nous allons arranger de préparer un micro pour l'auditoire.